ici.
Shalom! Hein, vous parlez tous hébreu, c'est bien. Je m'appelle Josué Turnil et je suis le directeur de Juifs pour Jésus. Je suis né dans la terre promise, Abraham, Isaac et Jacob, à New York aux États-Unis. Alors, peut-être c'est drôle, mais la réalité que la plupart d'Israël est à l'extérieur d'Israël. Israël, premièrement, chers amis, est un peuple et aussi la plus grande partie d'Israël en Europe se trouve en France. Mais il y a aussi des Juifs en Suisse, dont une est venue aujourd'hui, ce matin, pour nous accompagner. Vous allez la rencontrer tout à l'heure, une Suisse de Neuchâtel, une Juive de Neuchâtel, et vous allez entendre son histoire. Donc le thème de ce matin, c'est Israël et l'Église, c'est-à-dire le peuple juif et vous. Quel est le lien entre vous et le peuple juif? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient à la lumière des Écritures? Et donc j'aimerais commencer avec un verset de l'un de mes poètes préférés qui a dit ceci: « Ce que nous appelons commencement est souvent la fin. La fin, c'est l'endroit d'où nous partons. » C'est totalement biblique. En Ésaïe, Dieu, l'Éternel a parlé à travers Ésaïe en disant « J'annonce dès le commencement la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. » Donc, quand il s'agit du Moyen-Orient, quand il s'agit du peuple juif en France ou en Suisse qui souffre de l'antisémitisme, même notre bureau, vous savez, est cible, mais a été déjà attaqué à plusieurs reprises, et même notre personnel aussi. Malgré toutes les circonstances que l'on voit, la situation des Juifs dans le monde, la guerre à Gaza, il nous faut tenir la fin dans la tête. Devoir garder nos yeux fixés sur l'horizon. Et voici ce qui va se passer dans l'avenir. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, rendront un culte à l'Éternel. Ça, c'est l'avenir. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous lisez dans les réseaux sociaux, peu importe l'actualité, c'est ça l'inéluctable, incontournable fin. N'en doutez pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Il parle d'une autoroute entre l'Assyrie et l'Égypte. Laissez-moi vous dire que l'Assyrie est l'une des plus anciens, plus vils ennemis d'Israël jusqu'à ce jour. Laissez-moi vous dire que l'Égypte est la nation qui a mis Israël en esclavage pendant 400 ans. Donc les deux pires ennemis de l'Antiquité d'Israël, il y a une autoroute entre l'Assyrie et l'Égypte. Alors, il faut connaître un peu la géographie. L'Assyrie, c'est le nord et est. Donc, je vais me retourner. Donc, nord et est, c'est par là. L'Assyrie. Comment ça, c'est l'ouest? OK, donc, nord et ouest, c'est bon? OK, nord et... Bon, bah, essayez de travailler avec moi. Hein. L'Assyrie, c'est nord et ouest. L'Égypte, c'est sud et est. Vous savez ce qu'il y a entre les deux? Israël. Une autoroute passe entre l'Égypte et l'Assyrie vers Israël. Qu'est-ce que ça veut dire une autoroute? Une autoroute veut dire pas de frontières. Une autoroute veut dire pas de douane. Une autoroute veut dire libre passage, commerce, veut dire shalom. Comment y arriver? Eh bien, on ne peut pas y arriver sans vous. Romains 11, notre texte majeur d'aujourd'hui. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. On va passer au verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiraient tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens que je suis, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Et voici la clé. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? L'apôtre Paul écrit à une église qui ne le connaît pas. Il écrit à cette église parce qu'il veut aller en Espagne. L'apôtre Paul sait que sa mission ne peut pas exister sans l'église. Et ainsi, Juifs pour Jésus, nous ne pouvons pas exister sans vous, sans l'église qui nous soutient, qui prie pour nous, qui nous accompagne, qui nous envoie. Apôtre veut dire premièrement envoyé. Et donc il écrit à cette église et il dit, j'aimerais qu'on puisse être en partenariat ensemble, mais il nous faut qu'on comprenne certaines choses, qu'on soit sur la même longueur d'onde, à la même page. Et bien sûr, il arrive à Israël. Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est la question que l'église se posait à l'époque. L'église venait de passer par une division horrible, une division qui ne venait pas de l'intérieur mais de l'extérieur. L'empereur Claude, antisémite qu'il était, a expulsé tous les juifs de l'Italie, y compris les juifs dans cette église à Rome. Et l'église s'est trouvée loin de ses frères et sœurs, même les fondateurs de cette église. Et voyant la destruction du temple à venir, voyant les difficultés du monde juif, il se posait la question, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Peut-être c'est la fin. L'apôtre Paul répond de ses tripes. Loin de là, ça sort de ses tripes. C'est ce que ma mère m'a dit en hébreu, « Chas v'halila ». Ma mère m'a dit ça en hébreu quand je suis tombé amoureuse d'une Danoise en Israël. Elle m'a dit, « Mon fils, avec toutes les belles filles israéliennes, tu as trouvé la seule goy. Chas v'halila, loin de là, non !» L'apôtre Paul répond de ses tripes. Quelle est la preuve, par contre? Il dit que je suis israélite. Si Dieu a rejeté son peuple, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, à vous prêcher l'Évangile? Si Dieu a rejeté son peuple, c'est fini. C'est ce que pensait Élie le prophète. Élie le prophète, qui se sentait seul, souvent comme les Juifs messianiques peuvent se sentir seuls. Il a oublié les promesses de Dieu envers Israël. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et Élie a prié contre Israël. Et Dieu a dit, « J'écouterai pas ta prière, Élie, parce que je me suis réservé 7000 genoux devant Baal. » Il a oublié, Élie, peut-être, que le prophète Jérémie avait dit, « Si la lune, le soleil, les étoiles cessent d'exister, alors seulement je rejetterai Israël de toute ma race, comme race pour tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. » Donc, dans le pire des cas, Dieu ne rejetterait pas le peuple juif parce qu'il a prêté serment, il a promis. Mais c'est plus que cela. Il dit à Élie, c'est beaucoup plus que cela. Je suis à l'œuvre au sein du peuple juif. Non, je n'ai pas rejeté le peuple juif. Il y a 7000 genoux juifs qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. L'Esprit Saint est actif. Et l'apôtre Paul dit, l'Esprit Saint est encore actif pour ramener les juifs à Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit de même aussi dans le temps présent. De qui parlait-il de même aussi dans le temps présent? De Matthieu, n'est-ce pas? De Pierre? De Jacques, des 12, des 120, dans la chambre haute, des 500 témoins de la résurrection, les 3000 à la prédication de Pentecôte, ce reste des Juifs dont le genou ne fléchissait que devant Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Mais de même aussi dans le temps présent, veut dire depuis l'écriture de cette parole jusqu'à aujourd'hui, dans chaque génération, il y a eu des Juifs touchés par le Saint-Esprit qui revenaient à Jésus. De même aussi dans le temps présent, 2025, à Martigny, vous avez la preuve parce que vous avez deux Juifs présents dans votre assemblée qui fléchissent le genou devant Jésus. Preuve que Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais qu'il est actif par l'Esprit Saint de les ramener au Seigneur. Et après, en verset 6, Paul dit, « C'est par grâce. » Vous êtes d'accord que c'est par grâce? Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'est-ce que... Vous comprenez ce verset? Ben, moi, non. Je ne comprends pas. Après cette introduction sur Israël, pourquoi est-ce qu'il revient sur la grâce? Quel est le rapport? Je ne comprends pas. On apprend tous lors de nos... C'est Michael qui s'occupe des cours de baptême. Si vous suivez les cours de baptême avec Michael, vous allez entendre... C'est par la grâce que vous êtes sauvés, non pas par les œuvres, n'est-ce pas? C'est les choses qu'on apprend contenues dans le béaba de la foi. Qu'est-ce que ça fait ici dans Romains 11? Eh bien, je crois que l'apôtre Paul est en train de découvrir quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de découvrir? Il faut le comprendre dans la vie de Paul. L'apôtre Paul était jeune, croyant, plein de fougue pour Israël. Et le lendemain de sa conversion, il est allé à la synagogue. Et on l'a éjecté de la synagogue. Vous vous rappelez là, à Dama? Et après, si vous lisez le livre des Actes, il est allé de synagogue en synagogue, de communauté juive en communauté juive. C'est écrit, il a essayé de convaincre pendant des heures. Et les gens me disent souvent, c'est bien que Juif pour Jésus soit là, comme ça vous pouvez parler aux Juifs, vous pouvez leur témoigner mieux. Mais moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi pas Paul? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé Paul? Qui mieux? Il avait le cœur pour le peuple juif. Il a dit, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Je préfère moi-même être anathème pour mon peuple. » Et en plus, il était éloquent et versé dans les Écritures hébraïques. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi Paul? Et je crois que dans ce verset, où Paul se répète d'une manière un peu maladroite, on doit admettre, dans ce verset, il est en train de découvrir quelque chose. Ce n'est pas par la connaissance de Paul, ce n'est pas par l'éloquence de Paul, ce n'est pas par l'œuvre de Paul ou quiconque peut venir à Christ, c'est par la grâce de Dieu. Et dans sa grâce, Dieu n'aime pas choisir les choses fortes ou compétentes. Dieu ne choisit pas la compétence. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les forts. Il choisit les choses fous, folles, pour confondre les sages. Et dans sa grande sagesse, dans sa grâce, Dieu a choisi des autres pour toucher le peuple juif. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux Valaisans afin que les Juifs fussent excités à la jalousie. Vous comprenez ce verset? Eh bien, moi, non. Vous savez ce que c'est que la jalousie? Je vais vous... Qui a des enfants ici? Vous savez ce que c'est que la jalousie, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer. Souvent, en tant que missionnaire, je n'avais pas beaucoup de moyens pour prendre de grandes vacances. Donc, il y avait une famille à Fribourg qui nous accueillait souvent. Et on faisait le trajet de Paris jusqu'à Fribourg, 7 heures de route ou quelque chose comme ça. Et le pire, c'était la montagne, la traversée, vomissement et tout le reste, comme vous savez. Mais pendant les 7 heures, il y avait un enfant de mes 3 enfants qui avait un jouet. Et les deux autres voulaient se jouer. Et les deux autres ont décidé de rendre la vie amère à tous les passagers de la voiture jusqu'à ce qu'ils aient ce jouet. C'est ça la jalousie, mes frères et sœurs. Et les parents sont d'accord, amen. Amen, amen. Ça veut dire ici que vous, les Valaisans qui croyez en Jésus, ont quelque chose qui va donner envie aux Juifs de ces tripes. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Nous avons... Einstein. Quand même, nous avons une très bonne armée. Nous avons Spielberg. Nous avons Patrick Bruel, bon sang. Qu'est-ce que vous avez pour qui peut nous donner envie? N'importe quoi. Eh bien, il y a un ami Ruben juif qui se souvient la première fois qu'un non-juif lui a témoigné de sa foi. Il lui a posé la question, « Pourquoi est-ce que tu es toujours si content, toujours si souriant, toujours heureux ?» Et Ruben lui a répondu, « Parce que ton Messie vit dans mon cœur. » Et Ruben a répondu, « Mais qu'est-ce qu'il fait dans ton cœur, mon Messie ?» Il a été rendu jaloux. Ma femme est aussi juive. Elle se souvient la première fois qu'elle a rencontré une chrétienne au lycée. Et ma femme vient d'une famille aisée, et cette fille était fille du pasteur, assez humble, de moyens, et elle voulait toujours passer du temps chez son amie. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle se souvient avoir pensé ceci. « Je veux ça pour ma famille. » Elle ne savait même pas ce que c'est le « ça ». Mais aujourd'hui, elle le sait, c'était la paix dans la maison, l'amour et le respect les uns pour les autres, le trésor de la parole de Dieu qui chérissait tout cela, l'a rendu jaloux et l'a demandé la prière. Jaloux parce que vous avez une relation personnelle avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Laissez-moi vous partager deux choses pas du tout connues dans le monde. C'est que 92% de juifs croyants en Jésus sont devenus croyants en Jésus grâce à un témoignage d'un ami chrétien non-juif. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Je vais vous donner un autre secret. Juif pour Jésus gagne 8 à 10 fois plus de non-juifs que des juifs. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que nous étions créés. Dans les passages de la Torah, c'est écrit que Dieu nous a appelés le Or Hagoïm, une lumière parmi les nations, ou encore une nation de prêtres, des sacrificateurs. Que fait le sacrificateur? Il intercède et il prie et il demande le pardon. Donc nous devions être Israël, toute une nation, des gens qui intercèdent, qui prêchent la parole aux nations qui nous entourent. Mais la situation est devenue tellement noire, l'état spirituel d'Israël, que Dieu doit envoyer le Messie pour sauver Israël. Et il y a un passage en Ésaïe 49 où il y a une conversation entre Dieu et le Messie. Il dit, c'est peu de choses, tu es mon serviteur. C'est peu de choses que tu sois envoyé que pour sauver les tribus d'Israël. Je ferai de toi une lumière parmi les nations afin que les îles les plus lointaines croient en mon nom. Donc qu'est-ce qui se passe? Paul dira dans Romains 11 plus tard, dans le verset 20 par là, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire que ces dons et ces appels sur Israël sont toujours là. Et on le voit dans les personnages que vous connaissez, n'est-ce pas? Cette capacité de communication et de communication pour prêcher l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe quand le bébé Jésus est reçu au temple? On le donne au Siméon et il dit, « Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir en paix car mes yeux ont vu ton salut. » Hier soir, nous avons découvert le jeu de mots avec « salut » et le nom de Jésus. Rappelez-vous, Yeshua et Yeshua ont vu ton salut. Et il dit ceci, « Une lumière pour allumer les nations et la gloire de mon peuple Israël. » C'est-à-dire celui qui va aider Israël à rentrer dans sa vocation pleinement. Et c'est pour ça que 8 à 10 fois plus de non-juifs viennent au Seigneur Jésus par « Juif pour Jésus » que des juifs. Et c'est pour ça que 92% des juifs messianiques aujourd'hui sont devenus messianiques grâce à un témoignage chrétien. Et c'est pour cela que Paul dit, je glorifie mon ministère. Parce que c'était toujours son cœur de toucher ses frères juifs. Mais je glorifie mon ministère parmi les païens parce que par cela, ils seront excités à la jalousie et je verrai le salut. Et moi aussi, je glorifie mon ministère d'être parmi vous aujourd'hui. Une église qui aime, qui prie, qui soutient Juif pour Jésus, Israël, depuis des années. Vous priez et je glorifie mon ministère parce que par vous, mon peuple, ma famille, même ma femme vont venir, vont atteindre le salut de Jésus. Car si leur rejet était la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sur une vie d'entre les morts? Ou il le dit ainsi d'une autre manière. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse de païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Il est en train de dire que s'il y a un petit reste, rappelez-vous le reste dont Paul a dit ainsi de même dans le temps présent, il y a un reste. Rappelez-vous, c'était quoi? 500? 3000? Quelques milliers de juifs croyant en Jésus, ce reste, n'est-ce pas? Mais eux, ils ont réussi au point que l'Évangile est connu en Afrique, aux États-Unis, et même les Français peuvent croire en Jésus. Imaginez ça! Imaginez ça! Grâce à ce rejet, si leur chute a été la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand tous les Juifs viennent au Seigneur? Quand tous les Spielberg viennent au Seigneur avec leurs dons de communication? Paul dit, ce sera une vie d'entre les morts. C'est quand même un peu bizarre, non? Un peu bizarre, parce que Israël devait être la lumière du monde, mais Israël ne l'a pas accepté, et donc c'est allé vers... Mais une petite minorité a reste à accepter, et ce reste a touché les non-juifs avec beaucoup de succès. Voilà. Mais ce n'est pas tous les non-juifs, ce n'est pas tous les Suisses qui sont croyants en Jésus, on est d'accord, n'est-ce pas? Mais juste un reste parmi eux. Mais ce reste va rendre le reste d'Israël jaloux, et après Israël va rentrer dans sa vocation, son appel, et ce sera une vie d'entre les morts, la résurrection. C'est fatigant même de le dire. C'est bizarre, hein? C'est un peu à l'envers, je dirais. Eh bien non, c'est moi qui est à l'envers. Le royaume de Dieu semble souvent être à l'envers pour nous qui sommes ici-bas, car ses pensées ne sont pas nos pensées, ni ses chemins, nos chemins. Dans le royaume de Dieu, je ne sais pas quelle nationalité vous avez, français ou suisse, Michael, je ne comprends toujours pas, tu es une énigme pour moi. Mais peu importe la nationalité de Michael, il a besoin d'une nouvelle nationalité. Il a besoin d'être né de nouveau pour rentrer au royaume de Dieu. On ne peut pas rentrer sur notre passeport suisse ou français ou américain ou même israélien. Il faut naître de nouveau, une nouvelle naissance, une nouvelle identité, une nouvelle citoyenneté. Pour, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne vous dirai pas le mien, mais j'ai 23 ans. Mais pour rentrer au royaume des dieux, 23 ans, ce n'est pas suffisant, il faut devenir un enfant. Dans le royaume de Dieu, les derniers sont les premiers, les premiers sont les derniers. Et si vous voulez sauver votre vie, il faut accepter la perte pour la cause de Christ. C'est ça, le royaume de Dieu. Et c'est ça, le plan de Dieu pour le salut du monde, par Israël. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Vous vous rappelez ma citation de ce poète ce matin quand je vous ai dit ce que nous appelons commençant, c'est la fin. La fin, c'est l'endroit d'où on partant. Je vais finir les quelques versets en Ésaïe que j'ai commencé tout à l'heure par rapport à l'autoroute. Après cette autoroute créée, c'est écrit, en ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays, ensemble, seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et Assyrie, l'œuvre de mes mains, Israël, mon héritage. » Vous voyez ça? Israël ne sera que troisième. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième, c'est une fraction, en fait. Si je vous ai dit qu'on n'allait pas faire les maths hier soir, vous vous rappelez? Mais une troisième, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous considérez toutes les bénédictions que Dieu a déversées sur le monde à travers Israël, dans les sciences, dans la littérature, les prix Nobel, les innovations, même votre iPhone, vous pouvez remercier Israël pour la reconnaissance faciale. Mais au-delà, imaginons toute la Bible qui est venue par Israël, et le Nouveau Testament, et le Seigneur Jésus, que Paul dit est béni par-dessus tout. Ici, ce passage dit, ça c'est qu'une troisième des bénédictions que Dieu va déverser sur ces trois pays ensemble, la Syrie, l'Égypte, Israël. Mais sans vous, on ne peut pas y arriver. Avant que Gaël ne vienne partager son témoignage, je vais vous dire en hébreu que les Juifs dans le monde entier ont chanté là pour Rosh Hashanah Yom Kippour ce dernier mois. Et c'est un chant que j'ai pris dans cet album de musique juive messianique que vous pouvez trouver sur la table. Avinu Malkeinu, notre Dieu, notre Père, fais-nous grâce et sauve-nous, car nous n'avons pas de mérite. Fais-nous grâce et sauve-nous. Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu. Chanenu vanenu. Ki en banu ma'asim, aseh imanu, tzedaka v'chesed. Aseh imanu, tzedaka v'chesed, v'hoshienu. Ve-hoshienu. Hoshienu, Hosanna, ce mot qui veut dire sauve-nous. Et c'est ma prière pour le peuple juif, c'est l'œuvre de Juifs pour Jésus. Et là, je vais inviter Gaël qui va partager son parcours, encore une preuve que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et peut-être tu vas prendre le micro là. Et Gaël aussi, après avoir partagé son témoignage, va vous dire comment est-ce que vous pouvez prier pour nous et garder le contact avec Juifs pour Jésus.
Merci Josué. Bonjour à tous. Je m'appelle Gaëlle. Je viens de Neuchâtel. J'espère que vous allez me comprendre avec mon accent neuchâtelois. Alors un jour, ma maman m'a dit « Gaëlle, si tu te maries dans une église, tu n'es plus ma fille. » Alors je viens d'une famille juive. Ma maman est juive israélienne. Et mon père était suisse, il s'est converti au judaïsme pour pouvoir se marier avec ma maman. Donc ils sont rentrés en Israël dans un kibboutz. Et puis quand je suis née, eh bien, on est allé vivre 3 ans en Israël et après on est revenu en Suisse. Et donc j'ai vécu dans cette famille où c'est qu'on faisait les fêtes juives, la Pâque juive, Hanouka, tout ça. Et puis, on allait visiter la famille en camping-car depuis la Suisse jusqu'en Israël. C'était super. Ouais, on pouvait faire tout le pays. C'était super. Et donc, voilà, j'ai grandi un petit peu là-dedans, en faisant, par exemple, la Pâque juive avec les chansons interminables en hébreu. Mais Dieu, qui avait libéré Moïse et son peuple, paraissait assez loin. Étant adolescente, je me posais plein de questions sur le sens de la vie et tout. Et après, jeune adulte, j'ai développé un petit peu des peurs et donc j'étais vraiment à la recherche de sens. Et un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait Elie. Je me suis dit, waouh, ah, c'est un juif. Il a dit, non, je suis chrétien évangélique. Je me suis dit, c'est quoi ça? Il a dit, en fait, je crois en Jésus. Je dis, ah, très bien, écoute, moi je suis juive, donc ton Jésus, tu peux te le garder. Moi je ne crois pas du tout en Jésus, et d'ailleurs tu sais, pour les juifs c'est interdit quoi. Et donc on a commencé à se fréquenter, et puis est née un peu une sorte de bataille, où c'est que lui, il essayait de me faire comprendre que Jésus était le Messie des Juifs, et moi je lui disais que non, Jésus n'était pas le Messie des Juifs. Et donc, je devais lui prouver certaines choses. J'ai dû lire la Torah et tout pour pouvoir lui répondre. Et puis, voilà, s'en est suivi en fait une sorte de recherche. Donc, lui, il m'a invité une fois à l'église. Je me suis dit, mon Dieu, cette croix, mais qu'est-ce que je fais là? Ça me choquait de voir une croix et d'entrer dans une église. Mais en même temps, je sentais chez ce Elie, et dans sa famille aussi, qui priait avant de manger, je sentais une paix. Josué vous a parlé de cette jalousie. J'étais jalouse. Il avait cette paix que moi, je n'avais pas et que je voulais. Puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas croire en Jésus, Gaël. C'est pas possible. Si je croyais en Jésus, je rejetterais toute ma famille, toute mon identité, tout ce que j'étais. Donc pour moi, c'était pas possible. Et donc, il m'a invité dans une église. Et puis moi, une fois, je lui ai aussi invité à écouter le rabbin. Et donc, je me disais, ah, il va se convertir. On va même se circoncire. Ah. Et donc, le rabbin a parlé du jour du grand pardon, Yom Kippour, avec les deux boucs, l'histoire. Et puis, on est sortis de là. Puis je me dis, alors, t'as trouvé bien? Il a dit, ouais, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ouais, yes, c'est bon. Il m'a dit, c'était génial. Il a expliqué ce qu'a fait Jésus. C'était incroyable. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et donc, voilà, on a continué à parler. Et puis, moi, je lui ai dit clairement, mais tu sais, Ellie, moi, je suis juive, je ne peux pas croire en Jésus, même si c'était le Messie. C'est pas possible, c'est contraire, en fait. C'est comme si vous avez du jambon de porc cachère. Ça va pas ensemble. Et donc, il a fait une recherche sur Internet, Google, tac, des juifs qui croient en Jésus. Et il est tombé sur le site de Juifs pour Jésus. Voilà. Et voilà, exactement, c'était il y a 20 ans. Donc, on a organisé une rencontre à Genève, à l'aéroport, donc de Neuchâtel à Genève. Voilà, on a fait ce trajet avec Ellie, puis on a rencontré Josué. Et puis, il a pu répondre à toutes mes questions. Par exemple, comment ça se fait que Dieu soit trois ? Moi, dans ma religion, on avait appris le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dieu est un. Comment il peut être trois tout d'un coup ? Et puis, comment Dieu peut être un homme ? Pour moi, ça me semble. C'est interdit. Comment peut-il avoir un fils ? Toutes ces questions, j'ai pu les poser à Josué. Mais surtout, en lui, j'ai pu voir un véritable juif qui croyait en Jésus. Et donc, ça m'a rassurée. Et je me suis dit, oui, c'est possible. Et donc, j'ai pu faire aussi le parallèle avec des prophéties comme Ésaïe 53, où c'est que je me suis dit, waouh, mais ça parle de Jésus. C'est incroyable, c'est son sacrifice et tout. Et puis je me suis dit, mais il faut que je lise le Nouveau Testament aussi. Alors j'ai demandé à Ellie un Nouveau Testament que j'ai lu en cachette, parce que bien sûr, si mes parents savaient que je lisais le Nouveau Testament. Et donc, j'ai commencé avec Matthieu, l'évangile de Matthieu, avec tous les patriarches, la généalogie. Puis j'ai vu que Jésus était juif. Et j'ai vu qu'il avait grandi en Israël et il n'arrêtait pas de citer des versets de l'Ancien Testament. Moi, je croyais que Jésus, il était allemand, qu'il était antisémite, qu'on avait tué des juifs au nom de Jésus. Tout ça, c'était un frein, un voile. Et donc, en lisant le Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein de juifs qui croyaient en lui. Mais surtout, j'ai découvert son véritable amour, un amour tellement grand qu'il s'est donné. Et je me suis dit, mais Jésus, Yeshua, si tel Messie, eh bien, rentre dans mon cœur. J'ai fait cette prière un soir dans mon lit. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Donc voilà, j'ai accepté Yeshua comme mon Messie. Mais voilà, mes parents n'ont pas vraiment accepté, ils n'étaient pas très contents, vraiment pas. Mais ils m'ont dit, on t'aime quand même. Ok. Ellie m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. Mais oui, Gaëlle, mais tu sais, si tu te maries dans une église, tu n'es plus ma fille. Et si tu parles de Jésus à ton mariage, on ne vient pas. En plus, il y aura la famille de Paris, famille juive qui va venir, on ne vient pas. Donc vous voyez, normalement, pour un mariage, eh bien, on est joyeux, on se réjouit et tout. Et là, eh bien, je pleurais. Donc c'était pas facile. Et donc j'ai appelé Josué à la rescousse. Au secours. Josué est venu et a pu parler en hébreu avec ma maman. Alors ils n'arrêtaient pas de crier. Je me suis dit, oulala. Mais non, en fait, ils étaient en train de discuter. Ils étaient en train de négocier. Donc, ils ont pu venir au mariage et on a pu parler de Yeshua. Ça, c'était bon. Voilà, pas Jésus, mais Yeshua. Donc, ça, c'est magnifique. C'est Josué qui nous a mariés. Et puis, est né trois magnifiques garçons. Et puis, voilà, aujourd'hui, j'ai toujours un contact avec ma maman. J'essaie de lui parler de Jésus, mais elle ne veut rien savoir. Et puis, dernièrement, j'ai aussi été à Paris parler de ma famille, de Jésus. Mon oncle a dit Jésus, c'est un, voilà, puis une insulte. Donc, ce n'est pas facile, des fois, de parler de Jésus à des Juifs. Mais c'est quelque chose vraiment de précieux parce que je sais qu'on peut avoir cette paix, cette paix dans son cœur. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager cette paix eh bien, à des enfants et à des jeunes d'origine juive. C'est pour ça que je m'occupe justement de ce ministère où c'est que on a un suivi tout au long de l'année. On organise des camps, dont le camp en été, le camp Gilgal, où c'est que on invite des jeunes et des enfants. Et donc j'aimerais vous laisser avec un passage que j'aime énormément parce que je ne sais pas si en tant que maman, eh bien c'est un petit peu, on est toutes un peu inquiètes. Hein. Mais j'aimerais vous laisser avec Philippiens 4:4 qui dit « Réjouissez-vous toujours. » Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus le Messie. Voilà, merci.
Sachez, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous pensez, le peuple juif se tourne vers le Seigneur. Dans les derniers 18 mois, on a vu 20 personnes juives donner leur vie à Jésus. Parce que c'est la réalité incontournable de la volonté de Dieu. Et rien, mais rien ne peut frustrer son dessein et sa volonté pour nous, pour l'Église et pour Israël. Que Dieu vous bénisse.